Chapitre 17. Nouvelle Terre. 74. Quatre planètes. Marmonna Trévise. Toutes les quatre petites. Avec une poussière d'astéroïdes. Pas de géante gazeuse. Vous êtes déçu? Demanda Pellorat. Pas vraiment. C'était prévisible. Les binaires en interaction à faible distance ne peuvent pas avoir de planète en orbite autour d'une seule d'entre elles. Elles doivent tourner autour du centre de gravité des deux, mais il est fort improbable qu'elles soient habitables, étant situées trop loin. D'un autre côté, si l'écart entre les binaires est raisonnablement grand, il peut exister des planètes en orbite stable autour de chacune, pourvu qu'elles soient assez proches de l'une ou l'autre des étoiles. Ces deux-là, d'après les banques de données de l'ordinateur, ont un écart moyen de 3,5 milliards de kilomètres. Et même au périhélie, quand elles sont au plus près, leur distance mutuelle est encore d'1,7 milliard de kilomètres. Une planète décrivant une orbite à moins de 200 millions de kilomètres de l'une ou de l'autre de ces étoiles serait en situation stable. Mais il ne peut exister de planète décrivant une orbite large. Ce qui veut dire pas de géante gazeuse, puisqu'elles doivent se situer loin d'une étoile. Mais quelle différence ! Les géantes gazeuses ne sont pas habitables de toute façon. En revanche, l'une de ces quatre planètes pourrait l'être. En fait, seule la deuxième offre l'unique réelle possibilité. D'abord, c'est la seule assez grande pour avoir une atmosphère. Ils approchèrent rapidement de la deuxième planète, et deux jours durant, son image s'agrandit. D'abord, en une expansion majestueuse et mesurée, et puis, une fois qu'ils n'eurent pas relevé le moindre signe d'émergence d'un vaisseau d'interception, avec une vitesse croissante et presque terrifiante. L'étoile lointaine décrivait rapidement une orbite temporaire à 1000 km au-dessus du plafond de nuages quand Trévise annonça d'un air mécontent « Je comprends pourquoi les banques de données de l'ordinateur assortissent d'un point d'interrogation la mention qu'elle est habitée. Il n'y a aucun signe manifeste de rayonnement. » Que ce soit lumineux dans l'hémisphère nocturne ou radio n'importe où.
La couverture nuageuse paraît fort épaisse,
nota Pellorat. Ça ne devrait pas intercepter les rayonnements radio. Ils regardaient la planète rouler au-dessous d'eux, symphonie de nuages blancs tourbillonnants, avec d'occasionnelles déchirures dont la teinte bleutée indiquait un océan. Trévise remarqua. La densité nuageuse est passablement élevée pour un monde habité. Il doit être plutôt sinistre. Mais ce qui me tracasse le plus, ajouta-t-il comme il plongeait une fois encore dans l'ombre de la face nocturne, c'est qu'aucune station spatiale ne nous ait encore interpellés.
Comme ça s'est passé l'autre fois sur Comporellon, vous voulez dire?
Comme cela devrait se passer sur n'importe quel monde habité. Nous devrions faire escale pour la vérification d'usage des papiers, de la cargaison, de la durée de séjour et ainsi de suite.
Peut-être n'avons-nous pas entendu leur appel pour une raison ou une autre,
suggéra Joie. Notre ordinateur l'aurait reçu, quelle qu'en soit la fréquence d'émission. Et nous avons nous-mêmes émis des signaux radio, sans obtenir le moindre résultat. Plonger sous le plafond des nuages sans communiquer avec les contrôleurs aériens est une violation de la politesse spatiale. Mais je ne vois guère d'autre choix. L'étoile lointaine ralentit, augmentant en rapport son antigravité pour maintenir son altitude. Il réapparut au jour et ralentit encore. En coordination avec l'ordinateur, Trévise découvrit une ouverture notable dans la couche nuageuse. L'appareil descendit et la traversa. En dessous d'eux, roulait un océan soumis à l'équivalent probable d'une bonne brise. Il s'étendait, ridé, plusieurs kilomètres sous eux, rayé de vagues traits d'écume. Une fois sortis de la tache de soleil, ils se retrouvèrent à l'ombre des nuages. Juste sous eux, l'étendue liquide prit aussitôt une teinte gris-ardoise, tandis que la température baissait notablement. Les yeux rivés à l'écran, Fallom commenta durant quelque temps le spectacle dans sa langue riche en consonnes, puis elle passa au galactique. Sa voix tremblait.
« Qu'est-ce que c'est, là, ce que je vois en dessous ?»«
C'est un océan, » dit Joie, apaisante.
« C'est une vaste étendue d'eau. »« Pourquoi ne s'assèche-t-il pas ? »
Joie regarda Trévise qui répondit « Il y a trop d'eau pour qu'il s'assèche. »«
Je ne veux pas de toute cette eau !»
répondit Phalum d'une voix à moitié étranglée.
« Allons-nous-en !»
Sur quoi elle poussa un petit cri aigu, comme l'étoile lointaine traversait un cumulus d'orage, de sorte que l'écran devint laiteux en se couvrant de gouttes de pluie. La lumière décrut dans le poste de pilotage, tandis que la progression de l'appareil devenait légèrement saccadée. Trévise leva les yeux, surpris, et s'écria
« Joie, votre Phalum est assez grande pour transduire. Elle se sert de notre alimentation électrique pour essayer de manipuler les commandes. Empêchez-la !»
Joie entoura de ses bras Phalum et la tint serrée.
« Tout va bien, Phalum, tout va bien. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Ce n'est qu'un nouveau monde, c'est tout. Il y en a des quantités comme ça. »
Phalum se détendit quelque peu, mais continua de trembler. Joie se tourna vers Trévise.
« Cet enfant n'a jamais vu un océan. Et, pour ce que j'en sais, peut-être n'a-t-elle jamais connu le brouillard ou la pluie. Vous ne pouvez pas manifester un peu de sympathie ?»«
Pas si elle tripote le vaisseau. Elle est un danger pour nous tous dans ce cas. Ramenez-la dans votre cabine et tâchez de la calmer. »
Joie acquiesça d'un bref signe de tête.
« Je vous accompagne, Joie, » dit Pellorat. « Non. Non, Pell, vous restez ici. Je vais calmer Phalum, et vous, vous calmez Trévise. »
Sur quoi elle sortit.
« Je n'ai pas besoin qu'on me calme, »
grommela l'intéressé. « Je suis désolé de m'être emporté.
Mais il n'est pas question de laisser un enfant jouer avec les commandes, non ?»
Il n'en est pas question, bien entendu, mais Joie a été prise par surprise. Elle saura contrôler Phalum, qui se comporte remarquablement bien pour une enfant arrachée à son milieu et à son robot, pour être jetée bon gré mal gré dans une vie qu'elle ne comprend pas.
Je sais, mais ce n'est pas moi qui ai voulu l'emmener, rappelez-vous. L'idée était de Joie.
Oui, mais l'enfant aurait été tué si nous ne l'avions pas prise.
Eh bien... je présenterai mes excuses à Joie plus tard, et à l'enfant. »
Mais il gardait son air renfrogné, et Pellorat lui demanda d'une voix douce
« Golan, mon ami, y aurait-il encore autre chose qui vous tracasse ?»«
L'océan, »
dit Trévise. Ils avaient depuis longtemps émergé du grain, mais les nuages persistaient.
« Qu'a-t-il d'anormal, cet océan ?»
« Il y en a trop, c'est tout. »
Pellorat le regarda, ahuri, et Trévise expliqua, énervé. « Pas de terre. »«
Nous n'avons pas vu de terre. »«
L'atmosphère est parfaitement normale, oxygène et azote en proportion décente. La planète a donc été modifiée. Et il faut qu'il y ait une vie végétale pour maintenir le niveau d'oxygène. À l'état naturel, un tel type d'atmosphère n'existe pas. Sauf sans doute sur Terre. » Où elle s'est développée, nul ne sait comment. Mais en tout cas, sur les planètes terraformées, il y a toujours une proportion raisonnable de masse continentale qui monte jusqu'à un tiers de la surface totale et ne descend jamais en dessous du cinquième. Alors comment se fait-il que cette planète ait été modifiée et soit dépourvue de continent ?
Peut-être, dit Pellorat, le fait qu'elle fasse partie d'un système binaire la rend-elle complètement atypique ? Peut-être... n'a-t-elle pas été terraformée et a-t-elle développé une atmosphère suivant un processus qui ne prévaut jamais sur les planètes autour d'étoiles simples? Peut-être la vie s'est-elle développée ici de manière indépendante, comme elle l'a fait jadis sur Terre, mais sous une forme exclusivement aquatique?
Même en l'admettant, nous ne serions pas plus avancés. Il est hors de question qu'une vie aquatique puisse développer une technologie. La technologie est toujours fondée sur le feu. Il est impossible de faire du feu sous l'eau. Une planète porteuse de vie mais dépourvue de technologie n'est pas ce qu'on recherche.
J'en suis bien conscient, mais je lançais simplement des idées. Après tout, autant que l'on sache, la technologie ne s'est développée qu'une fois, sur Terre. Partout ailleurs, les colons l'ont importée avec eux. En l'occurrence, vous ne pouvez pas généraliser quand vous n'avez qu'un cas unique à étudier.
Les déplacements en milieu marin exigent un profilage du corps. La vie aquatique interdit les contours irréguliers et les appendices tels que les mains.
Les calmars ont bien des tentacules.
Je reconnais qu'on puisse spéculer. Mais si vous songez à l'existence de pseudo-calmars intelligents qui auraient évolué indépendamment quelque part dans la galaxie et créé une technologie non basée sur le feu, vous faites là, à mon humble avis, une supposition hautement improbable.
À votre avis ?
Souligna doucement Pellorat. Soudain, Trévise éclata de rire. D'accord, Janov. Je vois bien que vous êtes en train d'ergoter pour me punir d'avoir été dur avec joie, et j'avoue que vous ne vous débrouillez pas mal. Je vous promets que si nous ne trouvons pas de continent, nous examinerons le mieux possible l'océan pour voir si nous pouvons y dénicher vos calmars civilisés. Comme il disait ces mots, le vaisseau plongea de nouveau dans la nuit, et l'écran s'obscurcit. Pellorat fit la grimace.
Je persiste à m'interroger. N'est-ce pas risqué ?
Quoi donc, Janov ?
De foncer ainsi dans la nuit. Nous pourrions dévier et plonger dans la mer pour être détruits instantanément.
Tout à fait impossible, Janov. Vraiment. L'ordinateur nous maintient en permanence le long d'une ligne de force gravitationnelle. En d'autres termes, l'intensité de celle-ci demeure identique, ce qui se traduit par le maintien d'une altitude pratiquement constante au-dessus du niveau de la mer.
Mais à quelle hauteur ?
Près de 5 kilomètres.
Ça ne me console pas vraiment, Golan. Ne pourrions-nous pas arriver sur un continent et nous écraser sur une montagne invisible pour nous ?
Invisible pour nous, mais pas pour le radar de bord. Et dans ce cas, l'ordinateur dévira le vaisseau pour lui faire contourner ou survoler la montagne.
Mais alors, si le terrain est plat, nous allons le rater dans la nuit.
Non, Janov. La signature radar de l'eau n'est pas du tout la même que celle de la Terre. L'eau est essentiellement lisse, la Terre rugueuse. Pour cette raison, l'écho renvoyé par la Terre est nettement plus chaotique que celui renvoyé par une surface liquide. L'ordinateur décèlera la différence et m'en avertira si une Terre est en vue. Même en plein jour et en plein soleil, l'ordinateur la détecterait encore bien avant nous. Ils retombèrent dans le silence et au bout de 2 heures retrouvèrent la face éclairée, avec un océan vide qui roulait à nouveau sous eux ses flots monotones, disparaissant simplement à l'occasion lorsqu'ils traversaient l'une des nombreuses formations orageuses. Dans l'une d'elles, le vent écarta l'étoile lointaine de son cap. L'ordinateur a laissé l'étoile lointaine faire, expliqua Trévise, pour éviter une dépense inutile d'énergie et minimiser les risques de dégâts matériels. Puis, une fois la turbulence passée, le calculateur a remis le vaisseau sur le droit chemin. Sans doute la queue d'un cyclone.
« Dites-moi, mon ami, nota Pellorat, nous allons toujours d'ouest en est ou l'inverse ? Nous nous contentons d'examiner l'équateur ?»«
Ce qui serait crétin, n'est-ce pas ?»« Non. » Nous suivons un itinéraire selon un grand cercle du nord-ouest au sud-est, ce qui nous fait traverser les tropiques et les 2 zones tempérées. Et à chaque nouvelle boucle, notre trajet se déplace vers l'ouest, à mesure que la planète tourne sur son axe en dessous de nous. Nous sommes en train de la ratisser méthodiquement. Puisqu'à l'heure qu'il est, nous n'avons pas encore vu la Terre, les chances d'existence d'un continent de taille notable sont inférieures à 1 sur 10, selon l'ordinateur. Et celle de rencontrer une île de taille notable inférieure à 1 sur 4, avec des probabilités qui diminuent à chaque nouvelle révolution.
Vous savez ce que j'aurais fait, moi ?
Dit Pellorat lentement, tandis que l'hémisphère nocturne les engloutissait à nouveau.
Je serais resté à bonne distance de la planète, et j'aurais balayé au radar l'hémisphère entier nous faisant face. Les nuages ne nous auraient pas gênés, n'est-ce pas ?
Et, poursuivit pour lui Trévise, nous aurions filé aux antipodes pour faire de même, à moins de laisser simplement la planète tourner devant nous. C'est de la sagesse rétrospective, Janov. Qui pourrait s'attendre à approcher d'une planète habitable sans être arrêté à une station d'entrée et se voir indiquer un couloir de descente ou bien être refoulé ? Et à supposer qu'on ait traversé le plafond de nuages sans un arrêt à une station ? Qui pourrait s'attendre à ne pas découvrir la Terre presque aussitôt ? Les planètes habitables sont synonymes de Terre !
Sûrement pas entièrement.
Je ne parle pas de ça, dit Trévise, soudain tout excité. Je vous dis que nous venons de trouver une Terre, taisez-vous. Alors, avec une retenue qui ne réussissait pas à calmer son excitation, Trévise posa les mains sur la console pour s'intégrer à l'ordinateur. Il annonça « C'est une île d'environ 250 km de long sur 65 de large, plus ou moins, de l'ordre de 15 000 km². Rien de vaste, mais d'une taille respectable, plus qu'un simple point sur la carte. Attendez. » L'éclairage de la cabine diminua, puis s'éteignit.
« Quoi donc ?»
chuchota Pellerat, qui avait machinalement baissé le ton, comme si l'obscurité était une chose fragile à ne pas briser. « Que nos yeux s'accoutument à la pénombre. Le vaisseau est en train de survoler l'île. Regardez donc. Vous voyez quelque chose ?»«
Non. Des petites taches de lumière, peut-être, je n'en suis pas sûr. » »«
Je les vois, moi aussi. » Bon, je passe au grossissement télescopique. Et de la lumière apparut, nettement visible, en taches irrégulières. Elle est habitée, dit Trévise. C'est peut-être le seul secteur habité de la planète.
Que faisons-nous à présent?
Nous attendons le jour. Cela nous donne quelques heures de repos.
Ils ne risquent pas de nous attaquer?
Avec quoi? Je ne détecte presque pas de rayonnement en dehors du spectre visible et des infrarouges. La planète est habitée et ses habitants sont manifestement intelligents. Ils possèdent une technologie, mais à l'évidence, pré-électronique. Donc, je ne crois pas que nous ayons à craindre quoi que ce soit à cette altitude. Et si je me trompais, l'ordinateur aurait tout le temps de m'en avertir.
Et une fois le jour venu?
Nous atterrissons, bien entendu.